Bonjour, bonjour et bienvenue en Radio Pyrénées de décembre, le dernier Radio Pyrénées 2017, une année d'une grande densité et ça va continuer en 2018 à coup sûr. Alors ça va être une émission tournée vers le passé et l'avenir parce que tout ça est intimement lié. On va essayer de voir ce qui peut être bien dans un changement, ce qui peut être bien dans ce qui avait lieu. Enfin, je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas on va se rendre compte que le progrès ça veut pas forcément dire plus de modernité. Hein, c'est tout un programme. Mais tout ça, on le verra en compagnie de Sonia et Philippe. Bonjour à vous.
Bonjour.
Voilà. On le verra en compagnie d'un autre Philippe également, le Philippe, notre Philippe de Monnaie 09, toujours là, fidèle au poste.
Bonjour.
Et Doudou.
Oui. Bonjour.
Voilà, Doudou, en 2017, toujours salarié de Monnaie 09. Nous verrons, puisqu'elle est en CAE et qu'on ne le répétera jamais assez, nous verrons en 2018 si elle continue à être salariée de Monnaie 09. On espère, mais on ne sait pas du tout encore ce qui va advenir de ces contrats. En tout cas, la monnaie locale, elle va bien. Elle va passer une belle fin d'année. On espère que vous allez bien la mobiliser pour faire vos cadeaux de Noël. Il y a énormément de prestataires Monnaie 09 qui offrent des possibilités d'artisanat, d'objets, de nourriture, de plein de cadeaux qui peuvent être faits, ou des ressourceries aussi où on peut acheter des cadeaux d'occasion, payables en Pyrénées. Enfin bref, vous allez sur le site de Monnaie 09, vous regardez et vous trouverez vraiment de quoi faire des beaux cadeaux de Noël à vos proches et à la planète en dépensant des Pyrénées. Et également, n'hésitez pas, hein, chers grands-parents ariégeois, à glisser en étrenne des billets de Pyrénées dans les enveloppes au lieu de ces beaux euros mondialisés. Voilà, des petites suggestions de petits gestes à faire, y compris pendant les fêtes, pour continuer à changer le monde. Alors, je parlais du futur de ces billets. Philippe, tu voulais nous dire un mot sur la discussion qui a lieu actuellement sur la monnaie en général et les monnaies locales également, sur le passage au tout numérique de cette monnaie.
Oui, alors je commencerai par j'ai entendu cette semaine un petit slogan, un petit jingle de Radio Transparence que j'aime beaucoup, qui dit, je crois, la chose suivante. On entendait la voix de Tania qui disait: Radio Transparence, la radio avec de vrais bruits dedans. Ben, je vais vous faire entendre quelque chose. Ça, c'est le doux bruit des Pyrénées qu'on froisse entre les doigts. voilà un bruit concret que vous connaissez bien. Et maintenant, je vais vous faire entendre un autre bruit.
Ah. Voilà. Tu viens d'expédier 1 million d'euros au Panama, là, c'est ça?
Voilà, un ordre de transfert en pianotant sur quelques touches. Et voilà donc deux bruits qui pour moi, un petit peu résument la question qui nous occupe, là. Avec donc à la fois la question du passage au numérique pour les Pyrénées, pour Monnaie 09, mais qui est une question qui traverse beaucoup les différentes associations porteuses de projets de monnaie locaux en France et également chez nos voisins européens, puisque donc la dernière réunion d'ailleurs du mouvement Sol avait lieu le mois dernier sur les bords du lac Léman, en Suisse, pour le lancement d'une monnaie locale qui s'appelle le Léman, et qui est d'ailleurs un cas très particulier et très intéressant de monnaie locale transfrontalière. C'est-à-dire que c'est une monnaie locale dont le territoire enjambe la frontière franco-suisse, et donc une partie de ce territoire, le territoire du Léman, est en France, l'autre est en Suisse. Ce qui fait d'ailleurs qu'en faisant ça, le fonctionnement de cette monnaie locale est confronté à deux codes monétaires différents, le code monétaire suisse et le code monétaire français, et permet de mettre en lumière les différences, quelquefois certaines incohérences peut-être qui peuvent exister quand on passe d'un pays à l'autre sur les usages légaux de la monnaie. Mais voilà, ça c'était un petit aparté, donc pour dire que
qui intéressera beaucoup Charles Aznavour, je pense, hein, pour faire passer sa monnaie, il n'aura plus besoin d'échanger les francs suisses contre des euros, ce sera très bien pour lui.
Oui, mais bon, il y en a peut-être d'autres que ça peut intéresser aussi. Oui. Bon, quoi qu'ici en Ariège, on a Andorre qui n'est pas très loin. Bon, il n'y a pas encore de monnaie locale transfrontalière avec Andorre, mais on pourrait peut-être y travailler, ça c'est un autre chantier. En tout cas, le chantier principal de cette réunion, c'était justement le passage au numérique, hein, des monnaies locales. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'intéresse pas que Monnaie 09, mais aussi plus dans le même ordre d'idée, beaucoup plus largement, on parle en ce moment de la suppression de la monnaie papier. C'est-à-dire que petit à petit, l'usage, y compris en Europe, donc dans la zone euro, de la monnaie papier et métal, et disons à un horizon de quelques années, a priori sur le déclin, c'est-à-dire que pour des raisons à la fois de coûts, à la fois de complexité d'usage, et puis également pour des raisons de traçabilité, de meilleur contrôle hein, des transactions. Alors on nous dit, un des arguments qui est avancé, c'est que ça permettrait de mieux lutter contre le blanchiment d'argent, contre les mafias, contre le terrorisme, etc. Bon, c'est sans doute un argument recevable, hein, comme tous les arguments sécuritaires qui conduisent à passer d'un état d'exception à des choses inscrites dans le marbre de la Constitution. C'est des choses qui sont actuellement en cours. Mais donc, en tout cas, il y a bien un projet, un mouvement, une tendance qui viserait à petit à petit abandonner la monnaie papier. C'est quelque chose qui nous paraît évidemment questionnable, pour le moins discutable, puisque bah, on voit bien aussi que s'il n'y a plus de monnaie papier, bah, je dirais à la limite, il n'y a presque plus besoin d'entretenir un parc de prison. Hein, parce que bon, bah, si vous voulez, dans les sociétés d'aujourd'hui, sans avoir quelques chiffres dans la poche, on ne peut pas aller très loin, hein, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas se nourrir, donc... la personne qu'on souhaiterait simplement priver de liberté, bon bah dans le cas de la disparition de l'argent en espèces, bah, il suffit tout simplement de quelques clics sur un ordinateur, on ferme son compte et vous voyez bien que la personne en question peut pas aller très loin. Donc il y a quand même beaucoup de réflexions à mener avant d'accepter sans discuter l'idée même de la suppression de la monnaie papier. Et justement, ben, nous ici en tout cas, avec Monnaie 09, avec les Pyrènes, et la plupart des adhérents en tout cas au réseau des monnaies locales complémentaires en France sont justement attachés à l'usage et à continuer l'usage de la monnaie papier. Ça n'empêche pas de développer les outils numériques, mais simplement c'est un développement en parallèle. L'idée n'est pas de supprimer le papier, mais de l'accompagner et de passer de l'un à l'autre. C'est l'idée même de complémentaire, c'est-à-dire que comme la monnaie est complémentaire, la monnaie locale est complémentaire à l'euro, eh bien on peut dire aussi que le numérique, dans notre fonctionnement, serait complémentaire au papier, mais n'est pas du tout voué à le remplacer.
Oui, et d'autant plus sur notre territoire qu'il y a, il y a certaines vallées où on a bien plus facilement accès à la monnaie locale qu'à la monnaie euro. Quoi. Le distributeur de billets, c'est le guichet de change de Monnaie 09. C'est pas un distributeur de billets automatique de la banque parce qu'il n'y a pas de banque.
Il est vrai, mais il n'en est pas moins vrai que pour certaines transactions, pour en avoir discuté par exemple avec des personnes qui sont dans le domaine du bâtiment, de l'architecture, de la charpente, toutes sortes de travaux de construction, on arrive très vite quand même à des transactions, à des montants de facturation qui sont plutôt de l'ordre de quelques milliers d'unités, que ce soit des euros ou des pyrènes. Et donc c'est vrai qu'autant pour les courses au marché, pour les cadeaux de Noël dont tu parlais tout à l'heure, dans toutes sortes de commerces petits et moyens, c'est tout à fait adapté que d'utiliser l'outil monnaie papier qu'on peut avoir dans son porte-monnaie. En revanche, c'est vrai que si on veut un jour pouvoir utiliser les pyrènes sur des transactions d'un montant un peu plus important, c'est quand même intéressant aussi pour nous de travailler à la mise en place d'un outil informatique, électronique, en fait d'un système de crédit mutuel sur base informatique. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on a sollicité, on en parlait dans l'émission du mois dernier, l'utilisation de l'ILO hein, comme moteur de recherche, parce que justement les gouttes d'eau, donc les financements qu'on va obtenir grâce à l'utilisation que vous pourrez faire de ce moteur de recherche serviront à financer cette plateforme, cet outil informatique qui doit à la fois nous aider à gérer notre base de données d'adhérents, gérer les adhésions, les réadhésions, etc., mais aussi de nous doter donc une préfiguration d'un outil de comptabilité mutuelle à l'intérieur même des adhérents du réseau Monnaie 09, et pourquoi pas aussi ouvert vers les monnaies locales voisines, ce qui permettrait aussi, hein, ça on en avait déjà parlé, d'articuler des transactions et de permettre à des usagers de voyager dans les territoires voisins, utilisateurs d'autres monnaies locales, avec des pyrènes, et de pouvoir payer éventuellement dans les commerces adhérents, par exemple au sol violette, avec des pyrènes, et réciproquement. Voilà pour un petit peu l'avenir de la monnaie locale en Ariège, enfin une des pistes.
D'accord, très bien, ben, merci, à suivre donc sur cet avenir. Bon, bah, tu as commencé en Suisse, nous allons continuer en Suisse, hein, puisque j'ai remarqué le petit accent de nos invités. C'est Philippe, tu viens des belles vallées du Jura, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça, oui.
Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait rejoindre nos belles vallées à nous, alors ?
Ma rencontre avec Sonia.
D'accord.
Et la nature en Ariège, qui est quand même très belle et très sauvage, et qui convenait bien au projet qu'on a l'intention de monter.
Ah, ben alors allons-y, jetons-nous dans ce projet. Qu'est-ce que c'est alors ?
Alors, bah, c'est notre association, le Champ des Possibles. Je dirais que le but de l'association, c'est un peu de cultiver des possibles. Enfin, cultiver, c'est peut-être pas le bon terme, vu qu'on est plus dans la cueillette, mais c'est de proposer d'autres solutions, surtout dans l'alimentation. Donc, on est plutôt orienté sur les plantes sauvages, sur les plantes sauvages comestibles. Et la gastronomie, l'alimentation, on dira plutôt.
D'accord. C'est une association que vous venez de créer ?
Oui.
Oui ?
Oui.
D'accord. Vous êtes tous les deux dedans ?
Je suis la présidente, bonjour.
Tu es la présidente. Bonjour madame la présidente. Donc toi, tu es d'ici, Sonia ou...
Non, pas vraiment en fait. Je viens du sud-est, mais je me suis rendu compte que j'avais une partie de ma famille qui avait été... vers Batchat un certain temps. Donc disons que j'ai un pied ici dont je n'avais pas vraiment conscience avant.
D'accord. Est-ce que la nature ariégeoise est plus comestible qu'ailleurs ou...
Disons que grâce à l'eau qui tombe régulièrement et au soleil qui en même temps est présent, on a une richesse incroyable. Et c'est vrai qu'après c'est aussi un endroit qui est quand même assez peu pollué. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi la région pour sa richesse en plantes. Et puis aussi la richesse des gens, une vraie générosité, des échanges, donc des plantes et des hommes, quoi.
Trop. Eh ben dis donc, ça va faire venir plein d'auditeurs toulousains en Ariège, là, faut faire attention.
Il y en a déjà pas mal qui ont des maisons ici.
qu'est-ce que vous faites concrètement alors dans cette association ?
Alors concrètement, on propose des animations dans la nature. C'est pas des choses physiques, on va pas faire de la randonnée forcée, c'est accessible à tout le monde. Et je dirais aussi à tout niveau, c'est-à-dire des gens qui s'y connaissent un peu, qui s'y connaissent pas, des enfants, des adultes, c'est ouvert à tous. Des animations, donc on va présenter les plantes sauvages, donc comestibles et aussi toxiques. Et on va montrer aux gens comment les reconnaître. Le but étant après de les inciter peut-être déjà à avoir un autre regard sur la nature qui les entoure. Parce que peut-être que même en ville, en fait, il y a des plantes, on ne s'en rend pas compte. Dans la rue, partout, en fait, on est entouré de la nature, on a beau essayer de vouloir la contrôler, elle est toujours là, et heureusement. Et puis ces savoirs-là, cette connaissance, ça nous relie à la nature, ça nous permet de nous reconnecter un peu avec quelque chose qui est essentiel et dont on oublie l'importance. Et puis aussi, simplement le plaisir de pouvoir manger aussi des choses qu'on va ramasser soi-même. C'est par rapport à l'alimentation, c'est aussi sortir des réseaux, savoir que on n'est pas obligé d'acheter des choses emballées sous plastique ou au supermarché, se reconnecter, savoir d'où vient ce qu'on mange, c'est quand même vachement important. Je dirais que voilà, c'est ça. En résumé, on fait des animations pour que les gens reconnaissent les plantes puis après, leur donner envie d'en connaître plus, de les consommer, de ne pas avoir peur de la nature aussi.
Est-ce que ces plantes comestibles, ça pourrait être une alimentation de complément ou est-ce que ça pourrait vraiment être... On pourrait vivre en mangeant dans la nature ?
On peut vivre en mangeant dans la nature, c'est sûr. Je dis souvent, l'agriculture a 10, 12 000 ans, l'humain 3 millions d'années. Donc, on chassait un peu, mais le reste, c'était des plantes sauvages. Donc, oui, on peut vivre. D'ailleurs, dans les animations qu'on propose, il y a aussi des immersions dans la nature, où on part juste avec un peu de farine et un peu d'huile. Et, moi, j'ai déjà passé plus d'un mois avec des amis dans la forêt. J'ai pratiquement pas perdu de poids. Donc c'est tout à fait faisable. Ça serait même possible de se passer de l'huile et de la farine, mais là ça demanderait beaucoup plus de temps, une autre organisation, d'être plus nombreux. Et bon, le but n'est pas forcément que les gens se nourrissent que de plantes sauvages, mais il y a moyen de fortement les intégrer dans l'alimentation courante. Je prends rien que l'ortie, qui a un côté, oui, la soupe d'ortie, mais l'ortie, c'est beaucoup plus riche en vitamine C qu'une orange. On donne souvent l'orange comme critique. On nous dit, oui, l'orange, c'est la vitamine C, mais l'ortie, il y a... Bon, je ne me souviens plus de la quantité exacte. Peut-être Sonia va pouvoir m'aider.
Je dirais peut-être 30 fois.
Oui, à peu près. Ouais, ouais. 30 fois plus de vitamine C qu'une orange.
Et après, il n'y a pas que de la vitamine C. Il y a aussi des protéines. Ce qu'on oublie quand même, ou ce que personne ne sait, ou un savoir qui n'est pas diffusé, c'est que les protéines qu'on trouve dans la viande, les protéines complètes, donc des protéines équilibrées en acides aminés essentiels, on les trouve dans les feuilles vertes. C'est un savoir qui n'est pas connu, diffusé. Cette idée préconçue que si on ne mange pas de viande, on va manquer d'énergie, elle est complètement fausse. Entre autres dans les feuilles vertes, et en particulier les feuilles sauvages, parce que plus la plante va être cultivée, plus en fait elle va se remplir d'eau et perdre de ses nutriments. Mais dans les feuilles vertes sauvages, on a des protéines complètes.
Et il y a aussi, si je peux rajouter, la sélection. Donc les légumes qu'on nous vend actuellement ont été sélectionnés pour qu'ils soient beaux et pour faire du fric, en fait. Donc pas pour leur qualité nutritive. Donc le légume d'un supermarché, il n'y a pratiquement plus rien.
Si, il y a beaucoup de pesticides.
ça coûte des sous, ma bonne dame. Hein.
Voilà. Mais la plante sauvage pousse exactement à l'endroit où elle doit pousser, sans aucune aide, sans aucun produit. Et enfin, ça dépend où on va le ramasser, effectivement. Il faut peut-être éviter les champs d'OGM pour ramasser ces plantes sauvages. Mais c'est vraiment une plante qui est là, au bon endroit, et qui est donc riche en plein de bonnes choses.
Ça donne envie quand vous en parlez. Est-ce qu'il y a des risques ? C'est l'auditeur qui écoute l'émission qui dit « Tiens, ben, je vais aller faire ma bûche de Noël, en ramasser des trucs. Tiens, c'est joli, ça, c'est rouge, ça a l'air joli, ça va faire joli sur mon gâteau. » Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui à aller ramasser des choses dans la nature ? À part dans un champ d'OGM où là, la question ne se pose pas. Le risque, il est là, oui.
Alors j'aimerais juste, avant qu'on réponde à cette question, peut-être se dire « Et est-ce qu'il y a un risque à aller acheter des choses au supermarché ?» Ou même... tout ce qu'on mange, en fait, ou quand on va aller dans une cantine, dans un restaurant, est-ce qu'on sait ce qu'on mange ? Voilà, c'était une petite parenthèse, après on va vous répondre. Mais peut-être aussi, toujours à vouloir chercher les peurs et à accuser les gens qui essayent de faire autre chose, peut-être aussi déjà se dire, bon, et qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ma vie quotidienne, quand je vais manger au snack, ou qu'est-ce que je mange ? Est-ce que c'est pas plus dangereux ? Voilà.
Alors autrement, des risques, oui, il y a certaines plantes toxiques. Elles sont peu nombreuses. Je dirais que dans l'apprentissage, ça serait intéressant de les apprendre. Et il y a à peu près en Europe 12 000 espèces de plantes sauvages. Il y en a 150 qui sont mortelles à petite dose. Donc c'est pas énorme, ça fait moins d'1%, 1,25% à peu près.
C'est pas énorme, mais c'est pas rien, quoi.
C'est pas rien. Ouais. C'est vrai qu'il faut les connaître. Après, dans les animations qu'on propose, on montre des plantes qui sont où il y a peu de risques de confusion, voire aucune. Et s'il y avait confusion, en fait, ça serait pas très grave.
Si je peux juste me permettre comme ça une petite analogie, quand tu dis 150 plantes mortelles à petite dose, bon, c'est vrai qu'on peut se dire oui, c'est quand même beaucoup de choses à apprendre, mais en même temps, j'essaie de me souvenir là, mais je ne me rappelle pas exactement parce que c'est loin, mais quand j'ai dû passer le code pour le permis de conduire, il y avait aussi un sacré paquet de panneaux à apprendre, et où effectivement, enfin, quand on prend la route, le risque mortel, il est quand même là, quoi. C'est-à-dire que bon, enfin, vous avez qu'à voir les statistiques.
Oui, aux dernières nouvelles, il y a eu plus de morts sur la route que d'ingestion de plantes toxiques cette année.
Exactement. En France, ouais. Et ça ne viendrait à personne à l'idée de remettre en question, de dire oh là là, mais non, ce code de la route, c'est trop compliqué, j'ai pas envie de l'apprendre, etc. Donc voilà, c'est effectivement, on peut tout à fait, on a été capable d'apprendre le code de la route, on est tout à fait capable de se pencher sur un petit livret et d'apprendre en effet l'essentiel des plantes dangereuses et toxiques. techniques pour pouvoir se livrer à des cueillettes, enfin, je trouve. Voilà.
Alors, une petite chose aussi par rapport aux champignons. Il y a beaucoup de gens qui vont encore aux champignons, alors que c'est vrai qu'il y a peu de gens qui vont vous dire « Ah, je vais cueillir des plantes ». Et pourtant, les champignons, il y a quand même beaucoup plus de risques de confusion. Le champignon, il va concentrer les toxines, il va concentrer la radioactivité. Donc, il faut faire quand même peut-être plus attention quand on ramasse des champignons, où on les ramasse, à quel stade ils sont, est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est le bon champignon. Donc après, pour les plantes, effectivement, il faut faire quand même attention. On ne va pas ramasser quelque chose dont on n'est pas sûr de ce qu'on a ramassé. Il faut être sûr de ce qu'on a ramassé. Donc, comment est-ce qu'on peut être sûr? Il va falloir qu'on apprenne. En venant avec nous, par exemple, à des animations, c'est comme ça qu'on apprend, c'est avec d'autres personnes. Apprendre avec des gens, l'avantage, c'est que par rapport à un livre, on va solliciter tous ses sens. Ça ne va pas être juste une image figée. Les plantes, c'est un peu comme la famille. On va avoir des aires de ressemblance, mais des fois, on va changer de coupe de cheveux. La plante, c'est pareil. Des fois, elle va changer de coupe de cheveux et on va se dire, mince, est-ce que c'est elle ? Donc c'est en multipliant les sens, quand je dis les sens, donc les cinq sens, l'odorat, le toucher, des fois l'ouïe aussi, qu'on va pouvoir être sûr qu'on est sur la bonne plante.
Le goût, c'est quand on est sûr sur les quatre autres.
On peut quand on est déjà, on a éliminé le gros, on va dire, on est sûr que c'est pas une très toxique, mais on n'est pas vraiment sûr. On peut quand même un petit peu mettre à la bouche et puis recracher. Les champignons, c'est pareil, on peut un peu mettre à la bouche, recracher si on fait attention. Ça peut aussi apporter des indices.
D'accord.
Voilà, on fait attention quand même à pas tout mettre à la bouche, bien sûr.
Comme on nous l'a appris depuis qu'on est petit.
Oui, voilà. Et en même temps, il faut toujours un petit peu prendre ses distances. Il faut pas en avoir peur absolument, parce que à ce moment-là, il y a plein d'autres choses qui devraient nous faire peur et qui nous font pas peur.
Oui.
Et là, il faudrait peut-être diminuer un peu cette peur et voir un peu ce qu'il y a aussi de positif.
Oui. Bon ben. Très bien, on va faire une pause sur ce conseil et écouter, comme chaque mois, une chanson qui parle d'argent. Je l'avais raté, donc je suis très content de vous faire ce petit cadeau de Noël. C'est Bernard Lavillier et l'histoire extraordinaire d'un billet de banque.
J'ai débuté ma carrière dans un hold-up audacieux. Il y avait de la cervelle par terre, les flics étaient très nerveux. Continuer dans un boxon, dans le slip d'une souris, puis passer dans le ceinturon d'un marchand de paradis qui se fit dézinguer plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. C'était un tueur à gages, car on disait ses fins de mois. C'est pas que dans ce boulot-là, on soit souvent en chômage. Surtout que par les temps qui courent, la liberté et l'amour travaillent pour la République. Comité d'action civique. Je me suis multiplié chez un type assez bizarre qui travaillait tard le soir, à la plume et au pochoir. Voyager dans des mallettes, dans des fourgons, des tablettes, dans des jeans ou de la soie, en Jaguar et en Matra. Je suis même passé dans vos poches, grippé par vos doigts crochus. J'étais même au PSU, au parti, et à minute, avant de faire la culbute dans les poches de Lavillier, ouais, mais ça n'a pas duré. J'ai dormi chez des prélats, entre deux doigts d'arnica, trois bons mots, une caresse, au vicaire et sur les fesses. Je suis le pouvoir d'achat, je suis celui qui décomplexe, je suis le dernier réflexe qu'on n'est pas prêt d'oublier. Essayez de me supprimer dans un coin sur la planète. Il y en a qui feraient une drôle de tête, il y en a même qui en sont morts, aliénés dans le décor. Je suis passé sous les tables, j'ai glissé sur des tapis, dans des poches confortables, j'ai pris un peu de répit. Dans les mains d'un mercenaire, puis dans la révolution, j'ai participé, mon frère, à des tas de combinaisons. Si tu savais ce que je sais. Dans quelles mains je suis passé. Tu t'en ferais pas beaucoup pour ta petite éternité. J'ai voulu me racheter. Mais voilà, j'étais trop cher. Depuis que les financiers mettent mes vertus aux enchères. Depuis que
que les poètes maudits comptent leurs économies. Je suis une pute tonnerre d'acier, je sais tout mais je dirai rien. C'est peut-être préférable pour l'idéal républicain. J'aimerais crever, tu sais. J'aimerais qu'on me foute la paix.
Du billet vert aux plantes vertes, il n'y a qu'un coup de micro. Et ben, nous revoilà avec Sonia et Philippe pour continuer à nous promener dans les champs des possibles. Alors, rien que ce nom, ça donne envie de voyager. Et puis nous, à Monnaie 09, on continue à faire notre propre contre-programmation, puisque au mois de décembre, mois de la consommation et de Noël et des grosses bouffes, on va vous parler de comment cueillir des choses qui ne coûtent rien et comment manger des feuilles. Hein. C'est un peu le programme, et c'est un programme qui peut donner l'eau à la bouche. On peut se régaler avec les plantes qu'on cueille.
Ah bah bien sûr, oui. Ah ouais. Y a quand même, enfin, il y a une partie des nouveaux chefs qui utilisent des plantes sauvages parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont peut-être fait un peu le tour des légumes et des saveurs actuelles et que ça apporte quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que dans les plantes sauvages, on va trouver des saveurs, des textures, des choses qu'on ne peut pas qualifier puisqu'on n'a pas les mots, on ne les connaît pas. En fait. On va essayer de faire des comparaisons, mais c'est juste nouveau. Quoi. Mmh. Donc il faut pas penser qu'on va... La salade, moi, j'arrive plus à manger de la laitue. Ça, pour moi, ça n'a pas de goût, quoi.
Et tu manges est-ce que les plantes sauvages, vous les ramassez, vous les cultivez à côté, ou est-ce que vous restez dans cette optique de les
ramasser? Ouais. Si elle est sauvage, a priori, c'est qu'elle n'est pas cultivée. On pourrait décider de cultiver des plantes sauvages, mais bon, disons que si elle est sauvage, elle a poussé seule, elle a concentré toute son énergie, elle... Pourquoi se fatiguer, entre guillemets, à cultiver alors qu'elle elle pousse et qu'on mettrait, par exemple, désherber son jardin. On met une énergie folle à désherber son jardin. Cette énergie-là, ben, pourquoi pas l'utiliser pour, après avoir, entre guillemets, désherbé, utiliser ces plantes-là pour les manger, tout simplement. on a fait deux actions en une.
Il y a énormément de bonnes plantes, d'excellentes plantes pour la santé, au niveau gustatif. Dont les jardiniers se battent contre.
Oui.
Et les éliminent, alors que...
Oui.
Nous, on parle de plantes sauvages comestibles, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de mauvaises herbes.
Alors, dans le jardin, ou des noms, vous pouvez nous donner, là, qu'est-ce qu'on arrache et qu'on ne devrait pas arracher, alors?
Je vous dirais, en fait, quasiment tout ce qu'on arrache, on pourrait le manger. Hein. le plantain.
Ouais.
Le plantain, le galinsoga, qui est...
Alors, une petite parenthèse, juste, on dit le plantain, en fait, on pourrait dire les plantains. Parce que, juste pas pour être rébarbatif, mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, il existe plein de plantains, comme il existe plein de menthes. On connaît plusieurs types de menthes. Donc, on pourrait dire, le plantain, c'est pareil. En fait, on dit le, on pourrait dire les. Bon, en l'occurrence, ils ont les mêmes propriétés, ils ont des propriétés assez proches. Mais donc, oui, les plantains dans le jardin, c'est une chose qui peut être envahissante. On peut s'en servir aussi bien à manger que pour faire des cosmétiques ou des produits de santé. L'ortie, on en a parlé tout à l'heure. Il y a énormément de... Bon, le chien dent. Alors le débat sur le chien dent. La plante à bannir. Alors, c'est du travail, mais on pourrait manger les rhizomes. Mm-hmm. Bon, c'est du boulot.
C'est du boulot de préparation, de nettoyage.
Déjà de récolte.
Ouais.
Ouais.
D'accord.
Sachant qu'on n'a quand même pas mis le boulot à le cultiver. Donc,
Oui,
après, il a poussé tout seul, on ne l'a pas arrosé, on n'a pas...
Et alors, puisque tu étais dans les grosses polémiques après le chien-lit, moi j'ai une grosse polémique aussi, c'est... Mais si ces plantes, s'il y a des animaux qui ont fait pipi dessus, est-ce qu'on ne va pas attraper des maladies
Oui, c'est une question qu'on pose souvent, qu'on nous pose souvent pendant les balades. C'est... le pipi de renard.
Ah oui, le fameux.
Alors ça, il y a beaucoup de gens qui ont cette idée en tête que le pipi de renard sur les myrtilles transmettrait des maladies. Alors, déjà c'est faux, ce n'est pas l'urine, c'est les selles. La maladie, s'il y en a une, en tout cas, elle ne vient pas de l'urine, elle vient des selles, d'accord? Donc ensuite, c'est un parasite qui se trouve dans les selles parce que le renard a ingéré un campagnol. Qui est porteur du parasite. En fait, les chiens aussi peuvent être porteurs. Et on accuse toujours le renard parce qu'on est toujours en fait dans cette symbolique du sauvage qui fait peur. Mais on a un jardin, on a un chien qui va manger des campagnols dans la forêt, il peut très bien être porteur aussi de la maladie. Donc quand on achète une salade qui a été cultivée dans un champ, qu'est-ce qu'on en sait qu'il n'y a pas un chien qui allait faire ses besoins sur la salade?
Ou un renard, parce que dans les, dans les grands champs de salade, on voit des renards qui se promènent et ils ne sont pas clôturés. Les renards peuvent y aller sans problème aussi.
Bon, ça c'était un petit point déjà de précision. Et ensuite, l'histoire des myrtilles. Alors, Philippe s'amuse toujours à dire, oh, mais surtout, oui, oui, ne les mangez pas, comme ça lui, il pourra en manger plus. Donc déjà, si on part sur le fait que le parasite, bon, déjà, il va pas être tous les animaux ne vont pas être porteurs. Donc si le parasite arrive déjà dans des selles d'un certain animal, chien ou renard, il va pas être partout. Et ensuite, il va être à une certaine hauteur. Donc déjà, si on part du principe que ce qu'on ramasse au-dessus de 30 cm, par exemple, va pas être contaminé, puisque, a priori, le renard, il est pas très grand. Donc, il va pas pouvoir faire ses besoins sur des choses qui sont très hautes. Ensuite, si on part sur des endroits qui sont en pente, enfin, il faut réfléchir un petit peu comme un animal, j'ai envie de dire, où est-ce qu'on aimerait faire ses besoins confortablement. On va pas aller sur une pente, derrière un buisson qui pique. On va aller, en fait, sur des chemins, on va aller sur des zones un peu plates. Et donc, si on fait attention là où on récolte, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure aussi, si on est attentif à là où on récolte, on limite les risques aussi. Après, de toute façon, le parasite est détruit à la cuisson. Donc, dans tous les cas, en cas de doute, sur des feuilles ou sur des myrtilles ou quoi que ce soit, si on a peur...
Confiture.
Voilà, on fait cuire. Ouais. 5 minutes à 100 degrés tue le parasite.
D'accord.
Par contre, tout ce qu'on peut écouter ou entendre sur le vinaigre ou d'autres solutions qui pourraient permettre de se débarrasser des parasites, c'est pas complètement vrai.
Puis c'est pas bon, en plus, du vinaigre sur une myrtille.
Bah, dans une vinaigrette, ouais. Pour ouais. La salade.
Oui,
c'est pas
ça.
Idéal,
chacun sa place.
Mais par contre, dans la confiture de myrtille, oui.
Mais oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là, en fait? Quel est votre parcours?
Alors, bon, ça a été tout un cheminement pour arriver à ça. Moi, j'ai eu une carrière à peu près normale de travailleur. Comme tout le monde, on dira, enfin presque. Et à un moment, j'en ai eu un peu marre et je me suis dit que j'ai toujours aimé la nature. Donc j'ai toujours habité dans la nature, mais je travaillais dans des bureaux, dans des entreprises. Et je me suis dit que non, c'était quand même le moment que je puisse plus travailler dans la nature. Donc j'ai fait une formation de guide, un peu générale. Et ça m'a vraiment attiré sur les plantes. Et donc là, j'ai commencé une formation d'ethnobotaniste sur 3 ans. Donc qui était vraiment orientée sur les plantes sauvages comestibles, on pourrait dire, avec un peu de médicinal, mais surtout sur la gastronomie.
Cette formation, en tout cas, en 3 ans, disons qu'elle nous a donné, puisque moi je l'ai suivie aussi, elle nous a donné des bases, disons, suffisantes pour reconnaître les plantes et après avoir les outils aussi pour continuer à progresser, à chercher dans les livres, à identifier d'autres plantes, etc.
Quand vous parlez d'ortie ou de plantain, on se dit que c'est bon, on peut y aller, on peut cueillir allègrement, mais parce que là, très sincèrement et sans aucune flagornerie, vous êtes passionnant et ça donne vraiment envie d'y aller. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là que demain on part tous en forêt et puis qu'on détruise complètement l'écosystème comme on l'a fait avec tout ce qu'on a touché un peu en quelque sorte, quoi?
Bah, je pense pas, parce que en fait, si on y va, c'est pour se nourrir. Cueillir, en fait, ça peut être passionnant, mais il y a des gens, ils vont très vite se lasser. Ils vont vite en avoir marre, à se baisser, à ramasser, et puis. Non, je pense que le risque, c'est que les gens ramassent éventuellement tout un lieu. Et ça, c'est vrai qu'il faudrait éviter. On dit toujours qu'il ne faut pas ramasser. Moi, je dirais le 30%. Il faut se limiter au 30%. Il ne faut pas ramasser si on voit qu'un individu. J'aime bien parler d'individus en parlant de plantes. C'est vrai qu'il faut... Mais le plantain, il y a des... Si vous allez dans un pré à vaches, il y a de quoi nourrir un régiment.
Faire une overdose de plantain.
Oui, c'est... Non, et l'ortie, je pense pas non plus.
Oui, non, je suis
après,
pas inquiet.
Voilà, il y a peut-être d'autres plantes où il y aurait un peu de, il y aurait un risque, oui. Oui. Mais bon, peut-être qu'on les montrera pas lors d'un premier stage à des gens dont on connaît pas leur motivation écologique, disons.
Je dirais que c'est un peu comme tout le reste, quoi. C'est pourquoi on fait ça et comment on le fait. De toute façon, tout le monde ne va pas se mettre du jour au lendemain à aller cueillir des plantes. Et puis si tout le monde, à un moment donné, pour diverses raisons, décidait de se dire bah, je me mets à cueillir des plantes, bah, peut-être que ça laisserait plus d'espace et que les plantes se développeraient plus. Enfin, ça ne va pas se faire du jour au lendemain de toute façon. Donc,
oui, ça laisserait plus d'espace parce qu'il y aurait moins d'agriculture. C'est ça que
moins d'agriculture,
dire.
Moins de routes, moins de supermarchés. Je veux dire, l'homme par le goudron et le béton, etc., couvre une surface énorme. Donc déjà, si une partie de cette surface-là est libérée, la friche, c'est un lieu idéal pour la cueillette. Les anciens lieux où il y avait ou des champs ou des bâtiments qui sont en ruine, la ruine, c'est là où pousse le sureau. Enfin, il y a plein d'endroits comme ça où, justement, la nature peut reprendre, entre guillemets, un peu plus de place. Et dans ces cas-là, bon, de toute façon, on n'en est pas là pour l'instant. Et si déjà les gens prennent cette envie-là, ce goût-là, ça pourra peut-être aussi leur donner conscience de leur impact et à quel point l'alimentation est liée à leur vie et à quel point ça abîme ou pas notre environnement. Donc donner cette conscience-là de ce que je cueille, c'est ce que je vais manger, ça peut permettre aussi d'avoir plus conscience de l'impact que ça a sur le global. Si justement cet endroit-là, c'est là où je vais cueillir pour me nourrir, ben, je vais faire attention de justement pas tout cueillir, pas tout piétiner, pas tout abîmer. Donc c'est tout lié en fait.
Et ouais. Et vous mangez quoi ?
Bah on en mange beaucoup. Mais on mange pas que ça parce qu'on essaye de pas être sectaire.
Et puis, qu'on est gourmand quand même aussi.
Oui.
Mais oui, forcément on en mange beaucoup.
Mais par rapport à l'alimentation, une alimentation plus classique, est-ce que vous êtes végétarien, vous êtes crudivore, granivore ?
Bon, alors moi, je vais parler d'abord et puis Philippe après je pense que il parlera peut-être de son cas particulier, mais moi, j'évite les dogmatismes et les sectarismes. Donc, je serai pour dire, je mange un petit peu de tout, mais en faisant attention à ce que je mange. Donc, je mange très peu de viande, je mange très peu de poisson, voilà. Mais je mange un petit peu de tout. C'est-à-dire que ce qui va être important pour moi, c'est le local, le bio. Et le bio, c'est pas l'étiquette bio ou AB, je m'en fous de l'étiquette en fait. C'est savoir comment c'est produit, si c'est fait par des gens qui font attention à comment ils cultivent, si c'est des plantes, des légumes, et si c'est des bêtes, comment ils les élèvent et qu'est-ce qu'ils font avec leurs produits. Je préfère, moi, manger un petit peu de fromage parce que je suis dans les Pyrénées et que mon voisin, il a 3 vaches et qu'il va faire... et qui va faire du fromage avec, plutôt que de manger de l'huile de coco qui va avoir voyagé, qui va être transportée, qui va... Peut-être la culture de la noix de coco qui est utilisée... elle détruit d'autres choses dans les pays où elle est cultivée. Donc, trouver cet équilibre-là, il n'est pas facile. Hein. On est tous plein de contradictions et des fois, on a des envies de choses qui ne correspondent pas à notre éthique. Hein. Ça nous arrive de manger des choses qui ne sont pas bio, je veux dire, voilà. Mais... essayer d'être le plus cohérent possible, sans essayer d'exclure, quoi. Voilà, ça, c'était pour mon cas.
Oui, alors, moi, pour l'alimentation, bah, j'ai aussi des incohérences. Par contre, bah, je suis végétarien depuis 30 ans. La motivation pour le végétarisme, c'était déjà que bah, j'adore les animaux et que je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de les tuer. Donc, je me trouvais que c'était pas... si je n'étais pas capable de le faire, moi, c'était pas normal que j'en mange. Et puis bon, à l'époque, j'avais aussi un côté par rapport au fait que la viande, ça demande énormément de protéines végétales pour faire 1 kilo de viande. Donc je trouvais que de manger de la viande, c'était un peu affamer les pays qui nous fournissaient les céréales. Donc j'ai arrêté la viande. Maintenant, je serais peut-être un peu plus ouvert à en manger, mais j'ai réessayé une fois. Franchement, ça passe pas, quoi. Ça fait trop longtemps que je mange pas, donc voilà. C'est vrai que bah, je dis ouvert à en manger si je connais le producteur et que je connais la vache. Mais j'ai toujours ce problème. Je peux cueillir des plantes, donc je peux les manger, mais si je partais à la chasse, que je tue un animal, je me forcerais à le manger. Je me ferais un habit avec sa peau, parce que je trouve que ce serait normal de l'utiliser. Je mangerais la viande, je me forcerais, même si j'avais de la peine à la digérer. Mais voilà.
C'est... Nos invités ont tout à fait bonne mine, hein, je le dis pour les auditeurs. Le teint hâlé, un sourire rayonnant, voilà, ça a l'air de faire du bien.
Ah, les plantes sauvages pour la santé, c'est vraiment quelque chose de fantastique. D'ailleurs, bon, là je fais une petite aparté, mais le végétarien, c'est vrai que quand je suis venu végétarien à l'époque, c'était assez rare. Les gens me prenaient pour un fou. Et... me disait oui, moi j'ai besoin d'énergie, il faut que je mange de la viande, mais en fait, végétarien, c'est la santé, c'est la force. D'ailleurs, un végétal, il n'y a qu'à voir comme ça pousse pour se rendre compte qu'il y a de la force dedans. Donc je ne pense pas que ça soit indispensable de manger de la viande.
D'accord, très bien. Peut-être dernière question, qu'est-ce que vous avez dit que vous faisiez des stages, si on est intéressé, comment est-ce qu'on vous contacte, qu'est-ce que vous proposez prochainement là au début 2018?
Alors on a un site internet et on a une newsletter.
D'accord.
Donc si on veut savoir l'actualité, le plus simple c'est de s'inscrire à la newsletter. Le site c'est champdespossibles.fr et non pas le champ des possibles.
Champ des possibles comme un champ agricole, quoi.
Voilà.
Ouais, AMP.
Et à la newsletter, une fois par mois, on ne pollue pas les boîtes, une fois par mois, et donc on annonce les dates des prochaines balades ou des prochaines animations qu'on va faire. Là, avec l'hiver, nous, en l'occurrence, il neige, donc là, c'est un petit peu... on va se mettre un petit peu en hibernation, mais dès le printemps, on va reprendre des animations.
Très bien.
Voilà, et puis on cherche un lieu où on pourrait faire des animations plus longues, avec des cours de cuisine... Donc toutes nos journées sont à prix libre. Si on fait des animations plus longues, je pense qu'il y aura un prix qui est fixé. Mais pour nous, le but, c'est que vraiment toute personne intéressée puisse venir se former. Donc même si les gens voient un prix qui leur semblerait trop élevé, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, on est ouvert à toute discussion.
Bon. Bah, très bien.
Oui, petite annonce, juste j'en profite pour remettre une couche par rapport à Philippe, mais oui, c'est vrai. Là, actuellement, on est sur des animations d'une journée, mais dans d'autres lieux où on pouvait faire ça, ou une journée complète, mais avec un lieu où on puisse cuisiner, c'est vraiment bien parce qu'avec les personnes, on peut aller cueillir ensemble et après on cuisine et on partage leurs pas. Et ça, c'est vraiment un moment sympa. Mmh. Donc, petit appel, s'il y a des gens que notre projet intéresse, touche, qui ont un terrain, et surtout un lieu où on puisse recevoir une dizaine de personnes, une quinzaine maximum, où on puisse cuisiner tous ensemble. Bah voilà,
n'importe où en Ariège.
Pourquoi pas,
ouais.
À partir du moment où il y a de la nature autour, ce qui est le cas. Donc,
Très bien. Est-ce que vous avez un petit cadeau de Noël, une petite recette là, de choses qu'on peut ramasser et qu'on peut facilement et qu'on peut cuisiner, là, très simple
Je dirais un pesto.
Un pesto.
Un pesto, c'est la petite tartinade du toast à l'apéro pour le repas de Noël, par exemple.
Un pesto de plantain, oui.
Oui, un pesto de plantain, un pesto d'ortie. Donc, on va ramasser des belles feuilles, si possible jeunes. Donc, jeunes feuilles d'ortie, jeunes feuilles de plantain, qu'on va hacher fin, très fin, le plus fin possible. Si on peut, sans mixeur, parce que comme ça, on n'écrase pas la fibre et on fait pas quelque chose qui va s'oxyder trop vite. On rajoute un peu d'huile, un peu de jus de citron. Ça, c'est la base. Et après, si on veut faire quelque chose un peu plus gourmand, on va rajouter un petit peu des amandes ou des noisettes pilées. Et éventuellement, un peu de purée d'amandes si on veut l'allonger encore. Et voilà, on mélange le tout. Puis un peu de sel.
Mmh. C'est ça. Et puis, bon, vu que ça va être Noël, on peut juste donner aussi un petit dessert.
Allez,
donc,
on prend.
La crème de Douglas. Tout le monde connaît le sapin Douglas. Ça a été planté pour... pour la construction, ce qu'on sait moins, c'est que les feuilles, enfin les épines, c'est en fait des feuilles, mais on dira les épines, c'est un truc super, ça a vraiment un goût exceptionnel. Donc ramasser un peu de quelques branches de Douglas, récupérer les épines, les faire infuser dans du lait de riz ou du lait de vache, enfin, donc faire chauffer le lait. Une fois qu'il est chaud, mettre les épines dedans, laisser infuser en refroidissant, et après juste réchauffer un petit peu avec du sucre, pas trop, enfin selon les goûts, un peu d'agar-agar, et c'est prêt.
Ah bah super.
Et c'est un super dessert.
Bon bah voilà, c'était...
La quantité au niveau des herbes et du lait.
Alors le lait, ça dépend du nombre de convives, et je dirais la quantité, une poignée pour un litre.
D'accord.
Voilà, deux, trois branches pour un litre, c'est parfait.
Super. Bon, parfait. Merci beaucoup pour tout
Merci
ça.
Merci de nous avoir invités.
Merci à vous.
Avec grand plaisir. Bonne continuation. On espère que vous trouverez... Alors, vous avez les coordonnées du Champ des Possibles. Vous pouvez toujours aussi les contacter par Monnaie 09, puisque les références de tous nos prestataires sont sur le site de www.monnaie09.fr. Eh bien, on prendra de vos nouvelles régulièrement, de toute façon, dans nos ans. Et puis, qui sait, on se retrouvera peut-être pour aller cueillir quelques cadeaux de la nature au printemps.
Vous êtes les bienvenus.
Super. Bon, bonne continuation.
Merci.
Bonne fin d'année à tous les auditeurs qui ont, j'espère, l'eau à la bouche et les yeux qui brillent. On est ravis de faire ce genre d'émissions qui donnent envie puis qui sortent un peu des sentiers battus, c'est vraiment le cas de le dire. On vous souhaite plein de bonnes choses et puis voilà, dans les bonnes résolutions 2018, on lâche rien, on change le monde, on y est là, il se passe plein de choses, on y est, on nous le dit peut-être pas, donc des fois on a des doutes, des fois on est fatigué, mais promis, regardez bien autour de vous, le monde il est en train de changer là, et c'est cool. Allez, bonne fin d'année, ciao.